Chers amis, bonjour. D'abord, avant de commencer, je voudrais rappeler la rencontre à Versailles le 23 juin prochain d'une réunion du Forum de la France chrétienne autour de M. Maxence Caron, qui est le directeur de collection aux éditions du Cerf, sur un livre qui s'intitule sur un thème qui s'appelle La nation française, mais L'apostrophe à nation. Qui est une formulation personnelle. La nation française, contribution à l'anarchisme de droit divin. Je pense que ça va être assez passionnant. Mercredi 23 juin à 20h10, 8 rue d'Artois, à 28 rue d'Artois à 20h30. Ceci dit, notre émission d'aujourd'hui, nous allons la consacrer à la débâcle de 1940 et à ses conséquences. Nous allons essayer de la voir, cette question, du 10 mai au 31 décembre 1940, et vous verrez pourquoi nous arrêtons au 31 décembre 1940, quitte à faire quelques remarques complémentaires au fur et à mesure. Nous avons auprès de moi, et avec nous tous, un ancien résistant, M. Pertusio, qui était un ancien du 11 novembre 1940, ce qui montre que ce n'est pas un jeune homme, même s'il a des allures de jeune homme. Le général Fèvre, qui est le vice-président de la Commission française d'histoire militaire. Et enfin, M. François Delplat, historien bien connu, spécialiste de Vichy, qui vient de publier un livre sur Marcel Kébir, mais qui avait été précédé d'un livre sur Georges Mandel. Nous lui donnerons la parole tout à l'heure. Et je voudrais commencer par une petite introduction personnelle. Vendredi, nous avons célébré l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Mais, vous me permettrez cette remarque qui est peut-être mal pensante, personne n'a songé à cette remarque de Churchill au général George en 1943. Heureusement que l'armistice a été signé, dit Churchill, sinon nous y sont été battus. Et évidemment, personne ne semble avoir beaucoup réfléchi à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu l'armistice. On a vu le problème sur le plan politique, mais on ne l'a pas vu sur le plan militaire. Alors sur le plan militaire, il ne faut pas oublier que si le gouvernement s'était installé en Alger le 20 juin 1940, en dehors du fait que la France aurait été occupée avec des conséquences beaucoup plus graves encore que ce que nous avons connu, il y aurait une deuxième chose, c'est l'entrée en guerre de l'Espagne dont personne ne parle. Or, le 16 juin 1940, le caudillo Franco a envoyé une lettre à Hitler lui proposant d'entrer en guerre. Ça, c'est dans les archives de la Wilhelmstrasse, hein. Proposant d'entrer en guerre en échange du Maroc français et du département d'Oran. Or, il est bien évident, je pense depuis longtemps, que une des raisons, c'est pas la seule, une des raisons pour lesquelles le maréchal Pétain, qui a été ambassadeur en Espagne, pousse à l'armistice, c'est qu'il est au courant des tractations qui se font derrière Serrano Suner et les pressions qui se font sur le général Franco pendant cette période. Ils ne sont pas négligeables. Dans une note du début de septembre 1940, le général Végan rappelle au maréchal, qui vient d'être publié dans les archives diplomatiques françaises, qu'il y a 200 000 soldats dans le RIF espagnol. C'est quand même énorme. Il n'y a rien à ce moment-là de notre côté. Et l'Espagne en guerre, ça veut dire l'Allemagne entrant en Afrique du Nord dans les 15 jours, dans les 6 semaines, ce que préconise d'ailleurs dans leur mémoire, selon eux en tout cas, aussi bien Rommel que von Manstein ou Guderian, pour eux, l'affaire était. Le drame d'Hitler, c'est qu'il a signé l'armistice. Et enfin, ça veut dire que toute Afrique du Nord occidentale aurait été occupée par les Allemands et les Espagnols. L'Afrique orientale par les Allemands et les Italiens, ce qui pose quand même quelques problèmes sur la poursuite de la guerre, ce qui explique la réaction de Churchill au général George. Donc, et là je vais tout de suite donner la parole à M. le général Fèvre pour qu'il nous explique comment la Commission d'histoire militaire française qui s'est réunie en janvier dernier a posé le problème de l'armistice. On vous écoute,
monsieur. Je vous remercie, monsieur le professeur. Effectivement, à la demande des émissions Economica, nous avons organisé, donc en janvier de cette année, un colloque qui a réuni une douzaine d'historiens sur le problème de l'armistice de 1940. Alors, le point de départ, c'était un livre de monsieur Jacques Bell, qui est un conseiller, qui était conseiller maître à la Cour des comptes, et qui a écrit plusieurs livres qui étaient formellement opposés à l'armistice de 1940. Et lui, il est partisan de la formule du repli, d'abord du réduit breton, puis du repli sur l'Afrique du Nord. Et il avait écrit un premier livre en disant que qui s'appelait « Il fallait rester en Belgique ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'était quand même assez curieux. Il estime que les armées qui s'étaient engagées en Belgique en mai 1940 auraient dû y rester pour contre-attaquer les Allemands sur les flancs ou sur les arrières. Bon. Ceci dit, donc, nous avons eu... quand ce projet nous a été proposé, nous avons estimé que le livre de M. Bell effectivement était intéressant, mais qu'il fallait d'abord faire le point et quelles étaient les capacités de l'armée française et de l'armée britannique également en mai 1940, au moment où la percée a lieu par les Ardennes et où on commence à avoir un encerclement de nos troupes qui sont restées en Belgique. Alors donc, nous avons engagé un certain nombre d'historiens de façon à faire le point des capacités de l'armée de terre, de l'armée de la marine et de l'armée de l'air à cette époque du 15 juin 1940. Alors le premier intervenant a été le colonel Gaujac, qui est un ancien patron du service historique de l'armée, un très bon historien. Et qui a montré que, petit à petit, nous perdions toutes nos divisions qui étaient engagées en Belgique. Alors, il fait un point. En Belgique, nous avons perdu 23 divisions. Ensuite, après l'enfoncement de la ligne Végan, nous perdons encore 11 divisions, enfin, etc. Et toujours est-il que, à la fin de la bataille sur la Somme, il reste très, très peu de divisions qui sont capables de continuer à se battre. Et donc, pour lui, il n'y a pas d'autres problèmes. C'était d'ailleurs l'avis de tous les chefs militaires de l'époque, à part le général de Gaulle, bien sûr, qu'il n'y avait pas d'autre solution que de demander l'armistice. Alors, un deuxième intervenant, c'est M. Facon, qui est un grand spécialiste de l'armée de l'air, au service historique qui a étudié le problème de l'armée de l'air. Donc, il a noté effectivement qu'on avait pu replier en Afrique du Nord environ 800 avions de différents types, mais que ces avions n'avaient aucun soutien sur place, il n'y avait pas de munitions, il n'y avait pas de dépannage, il n'y avait pas de soutien au sol, et il manquait des tas de matériel, donc cette aviation repliée en Afrique du Nord était incapable de se battre. Et le troisième intervenant, c'est Claude Huant, un marin très, très connu, qui avait écrit un livre d'ailleurs sur Darlan, vous devez le connaître, sur Darlan.
Une grande biographie sur Darlan avec Couteau Bégari.
Voilà. Alors lui, il fait le point des moyens de la marine et il en conclut que la marine française n'avait pas les moyens de transporter en Afrique du Nord un grand nombre d'effectifs, que les effectifs d'ailleurs, où est-ce qu'on les aurait pris parce qu'ils étaient tous engagés, qu'il restait plus grand monde sur le terrain, et que quand on a demandé aux Britanniques de nous aider à transporter des troupes en Afrique du Nord, les Britanniques n'ont pas accepté ou ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc la conclusion de Facon, c'est que c'était absolument impossible de faire un transport en Afrique du Nord d'un certain nombre de troupes à ce moment-là. Si on avait voulu prendre cette décision de se défendre en Afrique du Nord, il aurait fallu prendre la décision 3 mois plus tôt, c'est-à-dire avant que la bataille ait été perdue.
Et donc, Vous me permettez une remarque ?
Oui.
L'amiral Castex, dans un texte de 1938, Amiral Castex, dans un texte de 1938, se plaint fermement de l'absence de toute infrastructure militaire en Afrique du Nord.
Oui.
En 1938, car il envisage lui aussi, c'est intéressant d'ailleurs, que la France tout entière soit occupée. Et n'oublions pas que l'amiral Castex sera le premier directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
Oui, c'est ça.
Alors, il est connu par son traité de stratégie tout à fait remarquable.
Castex est un visionnaire de grande qualité. Alors ensuite, on a eu beaucoup d'autres intervenants. Je pense à M. De Vailly qui a montré que l'opinion française était fortement découragée, était tout à fait favorable à l'armistice et ils étaient... L'opinion française, dans sa grande, très grande majorité, était décidée à obtenir la fin des combats. Alors, il y a eu d'autres intervenants, Madame Duréau, qui a parlé des problèmes politiques qui étaient posés par Madame Duréau est une biographe de Daladier. Hein, elle a fait une thèse sur Daladier. Elle a montré quels étaient les problèmes entre le Premier ministre français et Churchill, en particulier sur la promesse qui avait été faite aux Anglais de ne pas...
Si vous me permettez de vous interrompre, M. Delplat, dans son Marcel Kébir...
Alors M. Delplat en parlera.
Non. Oui. Je veux juste rappeler que M. Delplat, dans son Marcel Kébir, montre bien que Reynaud, tout en s'engageant contre l'armistice... ne fait rien pour le favoriser. Vous l'avez écrit dans votre Marcel Kébir, qui est un livre fort intéressant et qui pose de très gros problèmes.
Oui. Pour résumer, Paul Reynaud n'est pas adversaire de l'armistice. Il est adversaire de l'armistice sans les Anglais. Donc Churchill n'est pas pour lui un secours, mais un embêtement, pour rester poli. Churchill, c'est la croix de Reynaud. Il est anglophile, tendance Halifax. Il aimerait bien voir tout le monde autour d'une table, avec Mussolini, avec les Allemands, pour limiter au mieux les dégâts franco-britanniques. Ah, sa politique.
Ça a commencé depuis le 20 mai, d'ailleurs. Oui. Et le halt Befehl, dont vous parlez dans votre petit dictionnaire énervé, si j'ai bien aimé, de la Seconde Guerre mondiale, le halt Befehl, c'est un peu ça. C'est la tentative de négociation... Oui.
C'est-à-dire que Hitler, contrairement à une mode, alors qui est apparue que depuis une quinzaine d'années, disons Hitler avait rien prévu, il n'y a pas de guerre éclair, rien n'a été pensé du côté allemand, c'est les généraux de l'avant, Guderian et Rommel, qui ont tout fait, et Hitler est le premier surpris de sa victoire. C'est complètement ridicule, ça tient pas une seconde. Le nazisme est un mouvement qui prépare la guerre jour et nuit, sur tous les plans matériels et intellectuels, depuis le 30 janvier 1933, qui dissimule...
Alors moi, je remonterai plus haut, d'ailleurs.
Si vous voulez.
Ah oui, bien sûr.
Donc, le nazisme cache son jeu. Hitler lui-même cache son jeu. Il adore qu'on le traite de peintre de bâtiment, éructant et vociférant des insultes derrière un micro. Ça, c'est une image de lui qu'il favorise lui-même. Et... alors qu'en fait, il y a un projet précis, et la campagne de France montre l'application d'un projet précis.
Oui,
prend une place extraordinaire, des offres de paix généreuses, entre guillemets, transmises par Göring à travers la Suède, aux deux gouvernements de Paris et de Londres, le 6 mai 1940, à valoir quand les Allemands seront à Calais, c'est-à-dire le 23. D'où l'ordre d'arrêt du lendemain, qui est, alors maintenant que j'ai dépassé Calais, je suis devant Dunkerque, vous vous décidez à les examiner, mes offres de paix.
Bien, j'aurais juste rajouté en plus, à propos de Hitler, cette remarque. Le projet allemand, le premier plan d'attaque sur la France, fait par l'état-major allemand, et reprend le plan Schlieffen de 1914. C'est le plan de novembre 1940. Là-dessus, il y a von Manstein, qui est chef d'état-major du corps qui est à Koblenz, qui dit on peut attaquer directement à travers les Ardennes. Et personne ne le croit, et nous ne l'oublions pas, von Manstein est muté de Koblenz à Stettin. Ce n'est que parce qu'il a des petits copains à l'état-major du Führer que son projet est présenté au Führer et que Hitler décide de traverser le 13 février 1940, de traverser par les Ardennes. C'est la volonté de Hitler contre l'état-major, d'un état-major qui, comme le nôtre, vit sur les arrière-pensées de 1914.
Bien sûr.
Voilà. Donc, il y a l'armistice. Avec toutes les conséquences que cela peut poser, tous les problèmes que cela pose, je redonne la parole, si vous me permettez, à M. Delplat, pour qu'il nous explique comment on va arriver à Mersel Kébir.
Je repartirai de l'idée de l'habileté de Hitler. Donc, Hitler, par son offensive apparemment écrasante, cherche à obtenir la reddition commune de la France et de l'Angleterre, la paix générale sur le front de l'Ouest, et il se décide à laisser entendre que, dans un premier temps, il accepterait de faire un armistice avec la France seule. Et donc là-dessus, le gouvernement français se divise, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que Paul Reynaud, voulant bien d'un armistice, mais pas d'une rupture avec les Britanniques, Paul Reynaud se retrouve sans politique, obligé de céder le pouvoir à Pétain, il le dit carrément, il démissionne et il conseille au président Albert Lebrun, dans la soirée du 16 juin, de faire appel au maréchal Pétain pour lui succéder, tout le monde sachant très bien que Pétain, c'est synonyme d'armistice, ou au moins de demande des conditions d'armistice à l'Allemagne. Donc, depuis quelques jours, les Anglais sentaient que ça sentait le roussi en France. Et dans les contacts entre les deux gouvernements de Paris et de Londres, d'un côté de la Manche, et puis de l'autre de Paris, de Tours, de Bordeaux, la question de la flotte se posait. Les Anglais, ayant tendance à laisser entendre, puis même à dire carrément, dans un télégramme le 16 juin au matin, qu'ils accepteraient que la France signe un armistice et reste quand même leur ami et même quelque part leur allié, à la condition que la flotte, la belle flotte française, moderne, la quatrième du monde, soit transférée dans des ports britanniques, au moins pendant la durée des négociations de cet armistice. Donc Hitler a l'habileté suprême de ne rien répondre à la demande des conditions d'armistice. Alors on accuse Pétain, à juste titre, d'avoir dit à 12h30, en même temps qu'il annonce aux Français sa prise du commandement, sa prise de fonction à la tête du gouvernement, il dit aussitôt, après avoir dit qu'il s'était adressé à l'ennemi pour connaître ses conditions d'armistice, il dit aussitôt, c'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. On dit que c'est une faute. Ce n'en est une que parce qu'Hitler ne répond pas. Quand on dit une phrase pareille, on est persuadé que les conditions d'armistice vont arriver dans l'après-midi, vont arriver par retour du courrier.
Mais c'est une phrase qui a eu une très mauvaise influence sur la psychologie des Français.
Oui, bien sûr. Oui.
Et de l'armée aussi.
Et de l'armée.
Mais évidemment, mais c'est une catastrophe absolue.
C'est une erreur de Pétain, c'est certain.
S'il avait eu des contacts en sous-main avec l'Allemagne et qu'il avait su que cette phrase déclencherait l'arrivée des conditions d'armistice et de conditions relativement modérées, c'était jouable. Mais Hitler va laisser cuire la France dans son jus pendant 5 jours sans les dévoiler, ces conditions d'armistice. Et ça, de la part de Hitler, c'est une habileté suprême. Il laisse la situation pourrir et se dégrader. Finalement, les conditions d'armistice sont connues dans la clairière de Retonde et téléphonées par le général Unciger, chef de la délégation française à Retonde, téléphonées à son propre commandant en chef et ministre de la Défense, le général Weygand. On est vers 21h le 21 juin. Donc, entre le 16 et le 21, il s'est passé 5 jours. Entre la soirée du 16 et la soirée du 21, Hitler laisse Vichy en état de demande, hein, la bouche ouverte devant...
Vichy, c'est Bordeaux, d'ailleurs, à l'époque.
Et voilà. Donc, il laisse ce gouvernement de Bordeaux la bouche ouverte et le supplice de Tantale. Quand est-ce que ces conditions d'armistice vont me tomber dans le bec? Eh bien, 5 jours. Donc, pendant ce temps-là, évidemment, la situation a considérablement évolué, s'est considérablement dégradée. Le gouvernement Végan a été obligé de dire à l'armée « On se bat toujours, vous avez mal compris ». D'ailleurs, Pétain, il n'a pas dit « Faut cesser le combat », il a dit « Faut tenter de cesser le combat ». On fait un faux pour la presse du lendemain, on falsifie le discours, et tout le monde dit, les dirigeants, nous nous battons toujours. Donc, dans ces conditions, l'Angleterre ne peut que s'inquiéter de plus en plus mortellement pour la flotte française. Et alors, donc, arrivent les conditions d'armistice le 21 au soir, qui sont connues à Londres dans la nuit, parce qu'il y a encore un ambassadeur anglais à Bordeaux qui fait bien son boulot, qui assiège, qui fait le siège des ministres de Bordeaux pour avoir ces conditions d'armistice, qui arrivent à les télégraphier à peu près dans la nuit. Surtout l'article 8 concernant la flotte. Alors là, celui-là, il est dans un télégramme de l'ambassadeur Campbell dès la fin de soirée le 21. Et que dit cet article? Il dit « Les navires français, qui sont à l'époque tous outre-mer, qui ont tous quitté la métropole, ces navires doivent revenir en métropole, dans leur port d'attache du temps de paix, pour être désarmés et mis à équipage réduit sous contrôle allemand ou italien. » C'est une rédaction qui déclenche une colère noire à Londres, mais aussi à Bordeaux. Et ce que je montre d'ailleurs dans mon livre, je crois le premier, c'est que l'amiral Darlan, en lisant cet article 8, dit « bon, ben on continue la guerre ». Ça, c'est totalement inacceptable. Et il y a un premier conseil des ministres dans la soirée, vers minuit, où l'amiral Darlan tout d'un coup prend la parole. Bon, il y a deux ou trois ministres dont on savait qu'ils étaient les moins favorables à l'armistice qui commencent à prendre la parole. Par exemple, Camille Chautan, qui voulait connaître les conditions pour pouvoir les examiner. Il dit, bon, c'est des conditions inacceptables, d'ailleurs... j'aurais pas dû, si j'avais su ça, je serais pas rentré dans ce gouvernement. Enfin bon, et il y a quelques opposants comme ça. Et puis tout d'un coup, Darlan prend la parole et dit « Je me déclare opposant, je ne veux plus qu'on signe l'armistice ». Et puis donc la journée du 22 va être consacrée à essayer de discuter. Les Allemands ont mis la barre très haut en disant « pas un mot ne sera changé ». Finalement, ils acceptent de changer quelques mots sur l'aviation, sur un ou deux autres passages, mais rien du tout sur deux articles. Donc, alors l'article déshonorant, l'article 19, parfaitement déshonorant, qui est le Reich aura le droit de réclamer ses ressortissants, quels qu'ils soient. Et puis l'article 8 également, donc on impose qu'il n'y ait aucun changement. Alors, sur ces deux articles, le maréchal Keitel, qui fait la navette entre la table des négociations et le Führer, qui est un peu plus loin, l'amiral Keitel dit « Le Führer a bien voulu dire que l'article 19 serait appliqué seulement à quelques personnes, sur la livraison des Allemands, et pour l'article 8, alors, on pourra discuter sur les ports d'attache du temps de paix, c'est pas gravé dans le marbre, et il y aura une commission d'armistice à Wiesbaden qui pourra revoir la destination des navires et cette histoire de port d'attache du temps de paix. Donc voilà. Mais en attendant, le Führer s'impatiente et si vous voulez un armistice ou vous en voulez pas, si vous en voulez un, vous signez tout de suite. Et après un ultime coup de fil à Bordeaux, Unzige appose sa signature en début de soirée le 22 juin. Alors ça, évidemment, je vous laisse imaginer la tête des ministres de Londres à cette nouvelle qui arrive à Londres dans la soirée. On ne sait pas très bien à quelle heure, peut-être vers 11h du soir, un peu avant minuit. En tout cas, là, nous avons un discours de Churchill dans la nuit qui est inconnu, qui a été complètement censuré, qui a complètement disparu, mais auquel Pétain va répondre le 23. et qui donc va être publié dans les journaux bordelais du 25, ce discours de Churchill, et qui dit carrément le pays, un gouvernement qui a été capable de signer cet armistice, aucun de ses citoyens ne doit lui obéir. Donc c'est carrément la rupture totale. Et comme Churchill est entouré de ministres plus modérés, plus soucieux eux-mêmes de connaître les conditions d'armistice allemande envers l'Angleterre, il est obligé...
Oui, vous venez de dire quelque chose de très important, c'est que depuis un mois, et plus d'un mois, trois semaines à ce moment-là, les Britanniques négocient en sous-main, par l'intermédiaire de Lord Halifax et son ambassadeur à Stockholm, avec les Allemands.
Alors, je n'irai pas... Pas jusqu'au mot négociation, non, non, non. Ce sont plutôt des sondages qui partent d'Allemagne.
Mais qui partent d'Angleterre aussi.
Alors, pas exactement, pas exactement. Alors, vous avez, il y a deux grands actes d'indiscipline de Halifax. Il sort de la réunion du cabinet, il fait le contraire. Ça s'appelle un coup d'État, d'ailleurs. On ne pense pas qu'il y a eu des coups d'État dans l'histoire britannique, mais il y a eu au moins ces deux-là. Donc le 25 mai, il reçoit de son propre chef l'ambassadeur italien Bastianini, et il lui dit « ça serait bien si Mussolini organisait comme à Munich une conférence de la paix ». Et il lui dit ça au nom du gouvernement, donc en violation totale de ce qui avait été décidé par le cabinet où Churchill venait de faire triompher l'idée qu'on continuait jusqu'au bout et qu'il n'était pas question de discuter avec l'Allemagne. Donc voilà, Halifax fait le contraire par l'intermédiaire de l'Italie. Alors ça va tourner court, ça va déclencher une crise, parce que Halifax, il fait ses coups en douce, mais en même temps, il les raconte le lendemain au cabinet. C'est ça sa démarche, hein. C'est pas une démarche entièrement conspiratrice.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent Lumière de l'Espérance, le libre journal de François Georges Dreyfus, qui reçoit aujourd'hui François Delplat, professeur d'histoire que vous venez d'entendre, le général Maurice Fèvre et André Pertuzio, que vous entendrez tout à l'heure. Voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu.
Je vous en
Mais on
prie.
On doit se... Comment dit-on ? Je ne sais plus.
Alors j'en étais au coup d'État de Halifax. Le premier, c'est le 25 mai, quand il reçoit de sa propre initiative et pour lui raconter des choses ahurissantes par rapport à la ligne officielle du cabinet, l'ambassadeur italien Bastianini. Bon, cette démarche-là va tourner court après quand même... trois jours de très âpres discussions au sein du cabinet britannique. Mais ensuite, l'étape suivante, c'est le 17 juin. Après la parole de Pétain, il faut cesser le combat. À ce moment-là, à Londres, pendant toute cette après-midi du 17 juin, avant que les ministres et les généraux de Bordeaux redressent un peu le tir en disant « il faut tenter de cesser le combat », à ce moment-là, vous avez la presse londonienne qui paraît, des émissions spéciales avec un titre en lettres énormes, « France surrenders »,« La France se rend ». Et du coup, on se demande plus que jamais à Londres ce que devient la flotte. Et c'est là... par exemple, que Churchill écrit le soir un message extrêmement ferme et passionné, enflammé à Pétain et Weygand, en disant « Les amis, si vous livrez la flotte, vos noms seront flétris pour 1000 ans ». C'est un langage très, très violent. Et ensuite, alors, dans cette atmosphère très particulière, il faut raconter heure par heure ces choses-là, sinon on n'y comprend rien. Donc, dans l'atmosphère très particulière que crée sur la planète entière le « il faut cesser le combat de Pétain » à Bordeaux à 12h30, eh bien, Halifax s'affole, comme il s'était affolé le 25 mai. Dans l'urgence, là, le 25 mai, c'était la situation à Dunkerque qui lui paraissait appeler un geste absolument urgent. Et là, le 17 juin, c'est évidemment la reddition de la France qui fait que il fait un acte totalement contraire à la politique de son pays, c'est-à-dire qu'il envoie son adjoint Butler qui est donc le ministre adjoint des Affaires étrangères.
Secrétaire d'État. Sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères.
Voilà. Il l'envoie rencontrer le ministre de Suède à Londres, qui s'appelle Pritz. Et ils ont une conversation. Et Pritz est tellement stupéfait qu'il demande à Butler d'aller trouver Halifax pour lui faire confirmer ses paroles. Et Butler y va et revient dire « Oui, oui, le ministre est entièrement d'accord avec ce que je vous ai dit. » Et de quoi il s'agit ? Il s'agit de dire que la politique de lutte à mort et à fond contre le Reich, qui est la politique, ce n'est que la politique officielle du cabinet. Mais elle pourrait changer si on s'apercevait que les conditions allemandes sont raisonnables. À ce moment-là, s'il y a des conditions allemandes raisonnables, le bon sens pourrait l'emporter sur la témérité. Ou même le bon sens l'emportera. C'est très net, c'est très clair. Et à ce moment-là, Pritz télégraphie à son gouvernement suédois. Et dans le télégramme, il ajoute « J'ai rencontré d'autres personnes ». Alors là, on aimerait bien savoir lesquelles. « J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit que le gouvernement de Churchill pourrait être renversé le 28 juin. » Il y a même la date de la chute de Churchill. Et cette affaire est connue parce que les Suédois s'empressent de la faire connaître. Ils sont comme tout le monde, les Suédois. Ils aimeraient bien qu'elle s'arrête, cette guerre extrêmement menaçante pour leur territoire. Et là, ils ont l'occasion de jouer les bons offices. Donc, le télégramme, il n'est pas publié à Stockholm, non. Et il le sera dans les années 1980. Je suis dans diverses publications, le premier à le publier intégralement en français. Mais ce télégramme, il est lu à la commission des affaires étrangères du Parlement suédois et donc résumé dans tous les journaux suédois du lendemain.
Vous m'arrêtez une seconde. Je voudrais rappeler que le livre de François Delplat, qui est passionnant, s'appelle « Mers el-Kébir, 3 juillet 40 » et qu'il est publié chez François-Xavier de Guibert.
Voilà, donc...
Mais ça me permet quand même de rappeler que moi j'appelle ça des négociations.
Si vous voulez.
Ben, alors, avec le ministre des Affaires étrangères et Butler, quand même, ça va très loin.
Ça va très très loin. Ça va extrêmement loin.
Monsieur Pertusio voudrait dire un mot. Vous rapprochez du micro, Pertusio.
Je voudrais dire ce qui suit. D'abord, j'ai entendu moi-même la déclaration du maréchal Pétain le 17 juin. J'étais à Bordeaux à ce moment-là. Et ce que je pense, c'est que qu'il ait dit « il faut cesser le combat » ou « il faut tenter de cesser le combat » n'a vraiment eu aucune espèce d'importance sur l'opinion publique française. Tout le monde savait que la guerre était perdue et que par conséquent, il fallait en finir. C'était l'opinion générale. L'opinion publique n'était absolument pas, à aucun degré, prête à continuer n'est pas la guerre dans les conditions où nous trouvions à l'heure actuelle. Et ça c'est un fait évident. Bon, cela dit, pour parler des négociations entre l'Angleterre et l'Allemagne, effectivement, elles ont commencé dès la fin du mois de mai 1940 pour se terminer... Enfin, se terminer officiellement vers la fin décembre de 1940. Et il y a à cet égard deux choses que je voudrais rappeler. La première, c'est un ouvrage historique remarquable du professeur John Shanley, qui a consacré deux gros livres très détaillés à Winston Churchill, où il parle de cette négociation par l'intermédiaire des Suédois et notamment de l'ambassadeur de Suède, Pritz, et il en dit tout ce qu'il sait. Et d'où il résulte que vraiment la moitié de l'opinion anglaise à peu près était partisan de mettre fin à cette guerre et que Halifax et Butler représentaient pas cette partie. Alors pourquoi Churchill l'a-t-il laissé faire ? Parce que Churchill voulait gagner du temps. C'est la raison pour laquelle il voulait que la France résistât ville par ville, maison par maison, face une guérilla comme il l'avait demandé à Tans, pour éloigner le péril allemand, car il savait qu'ensuite, ça pourrait être le tour de l'Angleterre. Il n'avait pas prévu que Hitler n'avait jamais envisagé un débarquement en Angleterre. Bien. Alors ça, c'est une chose. Et je me souviens, alors personnellement, que le 28 novembre 1940, c'est-à-dire quelques jours après la manifestation du 11 novembre, j'ai été reçu avec tous les présidents d'associations, car j'étais président de la Corpo de droit à cette époque, par Paul Baudouin, qui était venu à Paris pour rencontrer les représentants de la jeunesse. Il nous a passé un savon pour la manifestation du 11 novembre. Il nous a demandé pourquoi 70% des étudiants parisiens étaient gaullistes. Je lui ai répondu avec d'autres que ce n'était pas 70%, mais 90%. Nous lui avons exposé pourquoi. Il nous a dit qu'il partageait tout à fait nos façons de voir et notre réaction, mais que le gouvernement, hélas, avait d'autres préoccupations infiniment n'a pas plus graves. Et il nous a dit ceci. Vous croyez que les choses se définissent en noir ou blanc? Ce n'est pas vrai. Elles sont grises. Et je ne trahis aucun secret en vous disant qu'au moment où je vous parle, les Allemands et les Anglais sont en train de se parler à Stockholm. Alors dites-vous bien, messieurs, ça je me souviens de ces paroles, que si par hasard un accord se faisait, il se ferait sur notre dos, sur le dos de la France. Par conséquent, le gouvernement a le devoir d'être aussi vigilant que possible et que vous n'entraviez pas, vous ou d'autres, par des manifestations intempestives qui nous mettent en délicatesse avec les Allemands, une situation très délicate. Voilà, je me souviens de ces paroles que j'ai gardées, n'a pas depuis cette époque. Donc, tout le monde était au courant, enfin dans les milieux diplomatiques, de cette négociation qui aurait peut-être pu aboutir, mais qui, à mon avis, Churchill ne la voyait que pour gagner du temps. Parce que c'était, enfin, je pense que c'est mon opinion. Monsieur
Pertusio, si vous voulez, oui. Nous reviendrons sur cette situation.
Oui, d'accord.
Entre novembre et décembre, parce qu'il se passe des tas de choses à ce moment-là. Nous en reparlerons avec Monsieur Delplat, s'il veut bien, tout à l'heure.
Je voudrais simplement ajouter une chose, si vous le permettez. C'est que, à propos de l'Espagne, cette question a été étudiée par des historiens espagnols et notamment par, je crois qu'il s'appelle Jorge Reyes Suarez, dans un livre très très important et très détaillé, et je ne crois pas que le général Franco ait jamais cru qu'en entrant en guerre, il obtiendrait le Maroc, n'a pas la région d'Oran. Je crois que tout cela fait partie, n'a pas d'une relation à la fois amical, mais en retrait de sa part, n'a pas par rapport à Hitler. Enfin, c'est-à-dire, toute la politique de Franco a consisté à, dire de bonnes paroles et à exiger des choses qu'il savait parfaitement que les Allemands ne lui donneraient jamais pour précisément ne pas entrer en guerre. Enfin,
car Hitler s'est fait avoir parce que je voudrais vous lire un passage, je ne sais pas si vous le connaissez, sur les directives d'Hitler. Et elle n'est pas inintéressante sur la réunion avec l'Espagne.
L'opération Hildegard plus tard. Félix d'abord, Hildegard ensuite. Bien.
Je rappelle, pour nous identifier, je cherchais le mot tout à l'heure, que vous écoutez donc Lumière de l'Espérance, le journal de François-Georges Dreyfus, qui reçoit Monsieur François Delplat, professeur d'histoire, le général Maurice Fèvre et Monsieur André Pertuzio, pour nous parler de l'année 40.
Alors voilà le texte que je voulais vous lire, quartier général des Führer, le 12 novembre 1940. Directive numéro 18, paragraphe 2. Espagne et Portugal. Des mesures politiques pour amener la prochaine entrée en guerre de l'Espagne sont en cours. L'objectif d'une intervention allemande sur la péninsule ibérique sera de chasser les Anglais de la péninsule de la Méditerranée occidentale. Donc Hitler croit encore le 12 novembre, il a rencontré Franco le 22 octobre 1940. Le 24 c'est Montoire, le 23 Hendaye. Oui.
Ouais. Et le 22, c'était Laval.
Et le 22, c'est Laval, c'est vrai, excusez-moi.
Je vous en prie. Mais là, c'est vrai qu'il faut aussi raconter en retard.
Non, vous avez tout à fait raison d'être là. Mais les mesures politiques pour amener la prochaine entrée en guerre de l'Espagne sont en cours. Le 12 novembre, donc Hitler y croit encore.
Est-ce qu'Hitler croit à ce qu'il écrit à ses généraux ? Et à mon avis, il faut à chaque fois faire toute une dissertation pour supputer le degré auquel il est.
Oui, mais là, il y a quand même ensuite toutes les préparations, exécutions de l'opération prévue. Ça prend 2 pages. Hein.
Ah ben, qu'il y ait un plan d'invasion de l'Espagne, c'est une chose. Et si Hitler veut menacer d'envahir l'Espagne, il est bien obligé de faire un plan et de dire à ses troupes d'être sur le qui-vive. C'est la meilleure façon de le faire croire.
Yes. Non, non, je vous dis pas le contraire, mais il y croit quand même un peu puisqu'il donne des instructions très précises de collaboration avec l'armée espagnole.
Là encore, ça peut être un simulacre. Pour savoir si c'est un simulacre ou pas, il faut fixer la date de décision de l'offensive contre l'URSS. Dans ce livre, vous avez la directive Barbarossa du 18 décembre.
Mais la directive Barbarossa, elle est préparée depuis le mois de juillet.
Et voilà, c'est le 13 juillet. Hein, et c'est une conséquence de Marcel Kéby.
Exactement.
Hein, donc on va peut-être revenir à la préparation de Marcel Kéby.
On va y revenir tout de suite. Il y a quand même une question qui a été posée sur l'armistice.
Alors là, c'est pourriez-vous rappeler la position du PCF pendant toute la période ? Non ? Ou alors attendez. Voilà, peut-être.
Non, j'ai bien ça. C'est la position du PC pendant toute la période.
Voilà, pendant toute la période.
Oh, c'est une émission à soi tout seul.
Elle est bien connue, hein.
Oui, et en même temps, elle est évolutive en fonction de la situation et des directives de Moscou qui sont elles-mêmes évolutives.
Bien, nous reprenons les délibérations anglo-anglaises d'une part, pour arriver à Marcel Kéby, d'autre part. Et franco-française, anglo-anglaise, franco-anglaise.
Oui.
Vous allez un peu plus vite, parce que le temps passe très vite.
Alors, simplement, donc, ça va être très rapide. La nouvelle de la signature de l'armistice frappe Londres comme un coup de poing dans la nuit du 22 au 23, détermine à Londres des réactions extrêmement vives de rejet du gouvernement Pétain et on s'apprête à ne plus le reconnaître du tout. Le 23 juin, il y a cet épisode encore très mal connu du Comité national français à former autour de Gaulle, qui est un communiqué officiel britannique et une allocution du général le 23 juin au soir qui a été publié pour la première fois par moi-même dans le magazine Histoire de la dernière guerre le mois dernier, dans un numéro qui est toujours en vente en kiosque, que je vous recommande. Il y a un appel inédit du général de Gaulle le 23 juin qui est bel et bien prononcé à la BBC et qui dit qu'en accord total avec le gouvernement britannique, il forme autour de sa personne un comité national et qui est destiné à représenter la France parce que celle-ci n'est plus reconnue maintenant par Londres. Donc tout ceci est à nouveau détruit par la Pénélope halifaxienne au cours de la nuit, alors que dans la journée, Halifax avait été d'accord. Et donc, finalement, la journée du 24, Churchill lui-même doit en rabattre, De Gaulle doit en rabattre, Halifax ramène les gens à plus, entre guillemets, de réalisme, et finalement, le cabinet de Londres adopte pendant quelques jours une ligne nouvelle qui est d'essayer de débaucher les gouverneurs de colonies françaises pour qu'eux, au moins, n'obéissent pas à l'armistice. Donc, il va y avoir 3-4 jours un peu encore flottants où on attend la réponse du général Nogues en Afrique du Nord, la réponse de Katrou en Indochine, la réponse de Mittelhauser en Syrie, à Beyrouth, oui. Petit à petit, tout ceci s'avère décevant. Il n'y a qu'un seul gouverneur de colonie qui se déclare fermement en faveur de De Gaulle, c'est Katrou. Mais en raison de la situation locale, il va quitter sa colonie tout seul, rejoindre De Gaulle tout seul à Londres sans sa colonie, où il a passé lui-même les pouvoirs à un amiral vichiste, de coup. Donc, c'est la déception complète à Londres.
là-dessus. Et plus que jamais, la question de la flotte reste entière, puisque Londres ne veut pas croire, et ne peut pas croire d'ailleurs, que cet article 8 n'existe pas, puisqu'il est encore en négociation. Non, il a été signé. Vu de Londres, on peut simplement dire qu'il a été signé. Donc ça veut dire que, alors il y a surtout quatre navires, le Richelieu et le Jean Bar, qui sont des cuirassés de 35 000 tonnes en voie d'achèvement, l'un à Dakar, l'autre réfugié à Casablanca. Et puis, il y a deux autres navires français qui intéressent l'Angleterre et qui pourraient intéresser l'Allemagne et devenir très dangereux s'ils passaient entre les mains de l'Allemagne. C'est le Strasbourg et le Dunkerque. Donc, qui sont tous les deux à Merzelkébir. Et à Merzelkébir, il y a en plus du Strasbourg et du Dunkerque et de quelques vieux cuirassés qui n'intéressent personne, il y a une flottille de contre-torpilleurs. Et ça c'est important. Il y a six contre-torpilleurs ultra-modernes, les meilleurs, les plus performants de leur classe au monde à l'époque. Et ça aussi, c'est un élément important. Donc, Londres ne veut pas en démordre. L'article 8 dit que ces bateaux doivent aller à Brest et qu'ils doivent y aller à équipage complet et avec leur armement, puisqu'ils doivent y aller pour être désarmés et mis à équipage réduit. Donc ça veut dire qu'ils vont arriver en zone allemande, en zone occupée par les Allemands, avec leur armement complet et leur équipage au complet. Donc à partir de ce moment-là, Hitler tient sa parole ou ne la tient pas.
Et mais en fait, ils vont pas à Brest, ils vont à Toulon.
Oui.
Non, attendez,
oui,
mais j'aurais que...
Vous avez un jeu de chat et de souris.
Mais oui, mais pourquoi Darlan a accepté cet article 8 alors qu'auparavant il le refusait ?
Parce qu'il s'est dégonflé. Ah. Dans la journée du 23, du 22 juin, quand on discute à Bordeaux les conditions d'armistice, qu'on essaye de les faire amender à Retonde, petit à petit on voit Darlan se dégonfler. Et s'orienter vers une acceptation de l'armistice en disant que finalement l'article 8 ne porte aucune atteinte à l'honneur, alors que c'était pas sa réaction première et que c'est pas la vérité.
Oui, mais il y a une réaction qui explique aussi cela, c'est la position du général Noguès. Le général Noguès, au départ, est hostile à l'armistice. Oui. Il demande des renforts immédiats pour se protéger contre une invasion germano-espagnole sur la frontière maroc-espagnole, maroc-français. Et on lui demande au moins 6 divisions. Et personne, on lui répond, on ne les a pas. Ni les Anglais, ni les Français. Et ne l'oublions pas, l'armée de terre anglaise est dans une situation telle que lorsqu'il y aura la guerre en Grèce, les Anglais auront du mal à réunir plus que 5 divisions pour aider les Grecs.
Oui.
Nous sommes en 41.
Oui. Cela dit, tout de même, Noguès, le 22-23 juin, demande avec force à Bordeaux l'autorisation de conquérir le Maroc espagnol. En disant, en ce moment, ils n'ont rien. Moi, je n'ai pas grand-chose, mais je leur suis supérieur. On en profite et on les envahit.
Et c'est pas ce qui ressort des documents diplomatiques qui viennent d'être publiés.
C'est bien connu quand même, hein, c'est bien connu.
Il n'a pas les moyens, Noguès. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 200 000 Espagnols dans le Rif. Alors avec quoi il va les attaquer ?
Ah, mais mon général, je vous fais remarquer que ce n'est pas à la même date. On avait parlé de, en 41, 200 000 Espagnols dans le Rif.
Non, c'est en septembre 40.
Voilà. Justement. Donc Franco a eu tout le temps de se renforcer, tandis que là, il est surpris lui-même par la rapidité de la descente allemande en France. Et il a pas du tout prévu de mettre le Maroc espagnol en défense. Pas du tout. Donc là, et Noguès le dit, c'est dans le journal de Baudouin, c'est dans tous les documents, dans beaucoup de documents, hein, cette démarche. Noguès est prêt à envahir. Il a fait ses préparatifs, les troupes sont sur leur base de départ, et si vous voulez, en deux jours, on submerge le Maroc espagnol. Ben si, c'est ce qu'écrit Noguès.
C'est lui qui aurait été submergé. Si. Ben c'est évident. Il n'y avait rien en Afrique du Nord.
Oui, c'est
sûr. Non, je crois que ce que je trouve extraordinaire, c'est que, sans perdre, on demande à n'importe qui de dire « vous obéissez au gouvernement ou vous n'obéissez pas ». Il y a un gouvernement il est légitime, le gouvernement de la Troisième République, intronisé par le président de la République, et on demande à tel général, non, il ne faut pas que vous obéissiez, il faut faire ci, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est quand même une situation assez extraordinaire, n'est-ce pas ? En fait, il y a un gouvernement qui prend des décisions, bonnes ou mauvaises, peu importe, n'est-ce pas ? Et puis, bon, on n'a qu'à les appliquer, mais le général Noguès, c'est le général, il obéit, ou alors il s'en va. Et c'est la même chose pour tout le monde.
Là, il obéit.
Ce qui est extraordinaire, c'est de demander à Pierre-Paul Jacques ce qu'ils en pensent.
Vous avez un certain nombre de ces Pierre, de ces Paul et de ces Jacques qui disent qu'ils sont hésitants.
On n'a pas à hésiter puisqu'il y a un gouvernement qui donne des ordres. Oui. Enfin, c'est extraordinaire, cette histoire-là.
On n'est pas tous les jours dans le plus grand cataclysme de l'histoire de son pays.
Justement, parce qu'il y a un cataclysme, il faut au contraire serrer les rangs.
Oui, ça c'est le discours de l'époque, mais ça n'est pas celui de De Gaulle, ça n'est pas celui de Noguès.
Oui, celui de De Gaulle n'a aucune importance à l'époque, n'est-ce pas ? Ça a pris de l'importance par la suite, mais le général, en juin 40, ne représente que lui-même, point, c'est tout.
Oui. Sauf qu'il fait un appel avant tout au gouverneur des colonies, pour qu'il désobéisse à la démarche
armistice. Oui, il désobéisse pas.
Oui, ils désobéissent pas, d'accord, mais ils hésitent, tous autant qu'ils sont. Et vous avez l'exemple de Quatroux en Indochine. Et vous pouvez pas dire que Quatroux, c'est n'importe qui.
Non, Quatroux a été relevé de ses fonctions parce qu'il avait fait trop de concessions aux Japonais. C'est exactement le contraire. Voilà. Et il a été remplacé par l'amiral Decoux à cause de cela. Et bien que sachant qu'il allait être remplacé par l'amiral Decoux, il a quand même continué des négociations avec le général Nishihara, le général japonais, pour conclure avec ce dernier, ce que ce dernier appelait une alliance défensive, dont le gouvernement français ne voulait aucun prix, bien évidemment. C'est pour cela que Quatroux a été enlevé, et Quatroux, à ce moment-là, était contre la dissidence.
C'est en juillet 40 qu'il est révoqué.
Comment ? Il est révoqué.
Le gouvernement, le gouvernement nommé par Lebrun, dans juin 40, dans lequel il y a deux ministres socialistes sur le marché.
Oui.
Bon, on me demande, il y a une chose tout de suite... qu'il serait souhaitable, même si M. Fèvre est connu, de ne le nommer avec son prénom. Alors je rappelle, c'est Maurice Fèvre.
Ah bon ? Ça n'a pas été dit ?
Mais si. Je l'ai dit, il me semble avoir
parce
dit.
Parce qu'on nous reproche de dire mon général, monsieur le professeur, monsieur l'abbé, etc.
Ah bon ?
Il n'y a pas d'abbé d'ailleurs.
Oui. Alors j'en profite pour préciser qu'on me présente comme professeur d'histoire, ce que j'ai été avec passion pendant 35 ans, et que je ne le suis plus, et je suis pensionné de l'État, parce que de mon temps ça pouvait se faire à l'âge de 60 ans, et je suis donc historien à plein temps maintenant, historien du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale.
Parce que professeur d'histoire n'est pas historien.
24 heures sur 24. Ah, il est en principe, géographe à mi-temps, monsieur Dreyfus.
Ah, pas du tout. Là, je suis désolé. Il y a une agrégation de géographie pour les messieurs. Les dames sont historiennes et géographes à mi-temps, mais pas les messieurs.
Ah bon ?
Non. L'agrégation de géographie a été créée par le gouvernement de Vichy à la demande, je n'ose pas le dire, d'un certain nombre de collègues géographes de la Sorbonne pour être séparés des historiens et le ministre... de l'époque, il est le successeur de Carcopino, l'académicien...
Bonnard.
Bonnard a signé le décret créant l'agrégation de géographie.
Bon, mais je n'ai pas parlé de mes titres et de mes parchemins. J'ai parlé de mon métier de professeur où j'étais censé enseigner au moins autant la géographie. Donc je maintiens, maintenant je suis historien à plein temps.
Delva, si vous permettez, il y a des questions qui ont été posées par les auditeurs. Alors, il faut en tenir compte.
Auditeurs ou auditrices, bonjour. Existe-t-il un site internet où se trouve la transcription, où l'on trouve la transcription des discours du général de Gaulle à la BBC? Il n'était peut-être pas encore général, je ne sais plus.
Si.
J'ai cherché en vain. Ça n'existe pas, savez-vous pourquoi? Merci. Alors, un message d'un auditeur. Pour comprendre l'état d'esprit des Français en juin 40, il faut lire de Pierre Béarn son livre intitulé « Le Dunkerque à Liverpool », publié en 1941, dans lequel il raconte l'évacuation de Dunkerque où il a participé comme commandant d'un chalutier armé. Un auditeur, cette semaine, tous les jours, sur 2000 ans d'histoire, sur France Inter, l'émission a été consacrée à 1940. Il a été affirmé qu'il n'aurait jamais été donné l'autorisation de passage par Franco pour aller en Afrique du Nord. Qu'en pensez-vous ?
La lettre, en parler.
Oui, la lettre du 16-06-40 du 16 juin que vous avez citée semble le contredire. Un auditeur, je lis le livre du président Albert Lebrun, paru en 1945 chez Plon. Je trouve ce récit intéressant. Qu'en pensent les invités ?
Delblanc, que pensez-vous du récit du président Lebrun ?
Alors, ça s'est paru sous le titre « Témoignage ». Et effectivement, il témoigne, je crois, à peu près honnêtement de ce qu'il a vécu. Hein. Il y a pas mal de livres de témoignages ou de faux journaux, comme celui de Baudouin, par exemple, dont il faut se méfier absolument. On n'a pas le droit de considérer un événement comme établi s'il n'est que dans le journal de Baudouin. En revanche, le témoignage de Lebrun me paraît honnête. Bon, il faut... Sous bénéfice d'inventaire, il faudrait que je le relise. Je vais pas vous le garantir au mot près maintenant.
Je voudrais vous poser une question.
Vous avez globalement, lu, il me paraît honnête.
Vous avez lu Hier et Demain de Vincent Auriol ?
J'en ai lu essentiellement les passages dont nous allons parler. Oui.
Et puis un dernier message. Une auditrice, l'amiral Darlan, a envoyé un télégramme aux flottes. N'obéissez, alors je cite, n'obéissez plus à mes ordres, je ne suis plus un homme libre. J'ai entendu cela car c'est mon époque, je n'ai plus entendu parler de ce fait à ce jour. Qu'en pensez-vous ?
Elle ne précise pas la date de cette déclaration, hein, ça me paraît curieux. Parce que je voudrais dire un mot, il y a eu une question sur l'appel du 18 juin. Hein. Je crois qu'il faut bien préciser qu'il y a eu trois exemplaires de cet appel du 18 juin.
Au moins.
Pardon ?
Au moins trois. Il y en a trois connus et publiés.
D'abord, le 18 juin, le général de Gaulle a présenté au gouvernement britannique un premier texte qui était assez défavorable à Pétain et qui a été refusé par les Anglais, qui a été un peu assoupli dans la formule qui a été prononcée le soir même du 18 juin. Et dont on a, dont personne d'ailleurs n'a la copie. On n'a jamais retrouvé. Il n'y a pas d'enregistrement.
Hein. Alors, il y a une écoute des services secrets suisses qui existe uniquement en allemand. Et qui a été publié en 1990 par les érudits, les historiens amateurs, mais ce sont souvent des gens précieux quand ils travaillent sérieusement, qui animaient à La Ferté-Bernard la revue historique et archéologique du Maine. C'est la première étude vraiment scientifique de l'appel du 18 juin, avec, disons, essentiellement une édition de textes et de documents sans aucune analyse historique. Et Jean-Louis Crémieux-Briac est ensuite moi-même, nous sommes chargés de cette analyse historique et elle se trouve notamment dans mon livre L'appel du 18 juin qui est réédité cette année.
Alors l'exemplaire qui est présenté dans les médias en général et dans les livres scolaires, c'est un appel qui a été affiché non pas le 18 juin mais le 3 août de cette année-là à Londres et qui n'est pas du tout qui reprend la formule... La France a perdu une bataille et n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude, etc. Oui. Hein? Et donc, c'est le modèle qui est devenu médiatique
et qui n'est pas le vrai
appel du 18 juin.
Oui, non, hein? C'est pas le vrai.
Ça, c'est une ruse de guerre. Hein? C'est-à-dire que quand De Gaulle s'amène à Londres le 17 juin en début d'après-midi, il a l'intention de dire ça. Et pendant deux jours, les Anglais vont lui verser de l'eau bénite dans son texte. Et c'est comme ça que le texte des écoutes suisses, c'est-à-dire le véritable appel prononcé au micro, dit « Pétain cherche un armistice dans l'honneur », ce qui est diamétralement opposé à ce que De Gaulle voudrait dire et aurait de toute évidence voulu dire et qu'il a proposé d'abord aux Anglais. Donc finalement, il a obtenu un micro à condition de dénaturer son texte. Ouais. Et puis ensuite, la bataille prend dans la nuit et on ne sait comment, on ne sait qui obtient l'édition dans les journaux anglais, donc l'oubli complet de ce qui a été dit au micro, oui. Et l'édition dans les journaux anglais d'un texte que De Gaulle trouve plus acceptable sans le trouver génial. C'est-à-dire, et c'est le texte que vous connaissez, l'appel du 18 juin, c'est le texte des journaux anglais.
Avez-vous la date, là? Parce que moi, je pense que ce n'est...
Le 19,
le 19
au matin, vous avez le texte. Simplement, il y a une phrase, la dernière. « Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres », qui n'est pas dans les journaux anglais du 19, mais qui va être rajouté par les gaullistes début août. Donc le texte définitif de l'appel, je dis bien de l'appel du 18 juin.
Ah oui, il est du 7 août.
Dans le bulletin des forces françaises libres, le premier journal officiel de la France libre, publie cet appel, qui est donc la version des journaux anglais du 19, qui d'ailleurs n'est connu qu'en anglais. Ensuite, on a rajouté, parce qu'on l'a repiqué la phrase « Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres », elle a vraiment été prononcé au micro. Ce qui veut dire qu'en obtenant dans les journaux un texte plus satisfaisant, De Gaulle a perdu son droit de parole quotidien. Hein, tant qu'il disait que Vichy cherchait un armistice dans l'honneur, il pouvait parler tous les jours. Ouais. Le jour où il ne veut plus le dire, alors là, tu parleras quand ça sera ton tour. Hein, mais tu n'as plus le droit de dire demain comme aujourd'hui.
Je voudrais que nous soyons un peu plus rapides, parce que j'aurais parlé de deux choses. La première, c'est le Marcel Guébert proprement dit maintenant. Et la deuxième, c'est l'incident de décembre 1940, sur lequel, qui est quasiment ignoré, sur lequel je crois que vous avez des choses à dire, et je crois qu'il y a des choses importantes à faire connaître.
Oui, alors...
Marcel Guébert d'abord, s'il
vous plaît. Marcel Guébert, j'essaye de résumer un petit peu la thèse de mon livre, qui est assez nouvelle, je pense, qui reprend dans un certain nombre de détails et qui fait apparaître des choses un petit peu étonnantes. Churchill avait laissé une grande liberté. L'idée que Churchill fait triompher au sein du cabinet dans deux séances qui se situent le 24 et le 27 juin. Donc c'est la décision d'une opération catapulte qui consiste à s'emparer de la flotte française ou à la mettre hors d'état de combattre, hors de combat, partout où on pourra l'atteindre. Hein, c'est ça l'opération catapulte. Donc, en insistant quand même sur les quatre grands navires dont j'ai parlé, Richelieu, Jean Bart, Strasbourg et Dunkerque. Eh bien, cette opération, les amiraux ne sont pas enchantés. L'amiral Pound, qui commande la flotte, donc le premier lord de la mer, n'est pas enchanté du tout. Il essaye de traîner les pieds, d'échapper comme il peut à cette mission qui lui répugne. En faisant ami-ami avec les amiraux français, en disant « Bon, allez, c'est sûr, vous n'allez pas obéir si on vous demande de rentrer à Brest. » Voilà, ils essayent de la jouer fine, les amiraux. Et puis Churchill impose petit à petit des décisions claires, nettes et fermes, à l'opposé de l'esprit de ces amiraux. Ça consiste à dire « Bon... on s'assure, hein, donc le 3 juillet, finalement le 27 juin, on fixe cette date du 3 juillet. Le 3 juillet, on s'assure des bateaux français partout où on le peut, et tout particulièrement à Marcel Guébert. Donc là, un amiral est nommé, Somerville, pour diriger une escadre spéciale, la force H, qui va se présenter devant Marcel Guébert le 3 juillet à l'aube. Et les instructions... sont finalement assez souples et il y a beaucoup de possibilités qui sont laissées. Donc il y a d'abord un ultimatum qui est remis, dont le texte a été amendé par Churchill, et j'ai trouvé un papier que personne n'avait encore utilisé, où on voit Churchill mettre ses corrections de sa fameuse encre rouge, donc ça c'est quand même historiquement très précieux pour connaître le processus. Et donc l'ultimatum, c'est que dans les 6 heures, les navires français doivent soit appareiller, soit se saborder. S'ils appareillent, c'est soit pour venir reprendre la guerre avec nous, soit pour aller se faire interner désarmés dans un port britannique, soit dans un port français,
colonial, mais à condition qu'il y ait au moins l'Atlantique entre eux et les Allemands. Donc aux Amériques. Et il est même suggéré qu'ils pourraient aller se faire désarmer aux États-Unis et que ça serait une solution également acceptable. Et puis, toutes ces conditions sont refusées, ce sont les Anglais qui couleront eux-mêmes les bateaux. Mais il y a une route secours qui avait été suggérée par l'amiral Pound, qui avait même figuré pendant un jour ou deux dans le texte d'ultimatum, et puis finalement Churchill l'avait fait retirer. C'est le désarmement sur place. Les bateaux seraient autorisés à se désarmer eux-mêmes sur place par des sabotages lourds qui ne pourraient pas être réparés avant un an. Et donc Churchill fait retirer cette clause tout en précisant qu'il sera quand même satisfait si c'est ça qui se passe, à condition que ce soit les Français qui l'aient suggéré, qui eux-mêmes proposé cette solution alternative. Donc, nos amiraux britanniques, à qui leur mission répugne, ils ont un boulevard pour obtenir cette solution-là. Tout le monde sera content, Churchill ne pourra rien dire. Et ils peuvent eux-mêmes la suggérer très lourdement. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et donc là, il y a une responsabilité énorme de l'amiral français Jean Soule, qui refuse de recevoir le capitaine Hollande, l'émissaire britannique. Et en plus, comme on utilise toujours tous les prétextes dans ce genre d'affaires, Jean Soule dit à qui veut l'entendre, il m'envoie un simple capitaine de vaisseau, bientôt ils m'enverront un quartier maître et puis un simple matelot. C'est ridicule. Le capitaine Hollande, commandant l'Arc Royal, donc un des plus beaux porte-avions du monde, le capitaine Hollande a été attaché naval à Paris jusqu'au printemps 40. Donc, dire que c'est un sous-fifre qu'on vous envoie comme négociateur, c'est vraiment un prétexte. Donc, Hollande, c'est ce qu'on pouvait leur envoyer de mieux. C'est un type parfaitement francophile et francophone, et qui est envoyé aussi parce que c'est un ancien attaché militaire. Il a le sens de la diplomatie. S'il y a quelqu'un qui peut suggérer la solution du désarmement sur place, c'est bien lui. Or, Jean Soule fiche tout par terre en refusant de recevoir Hollande. Et là, on peut dire que la responsabilité se déplace sur Somerville. Quand Somerville apprend vers 10h du matin que Jean Soule a refusé de recevoir Hollande, qu'est-ce qu'il pourrait faire Somerville? Eh bien, il pourrait envoyer un message à Jean Soule en disant « t'as pas compris, t'as pas compris que c'était important ». Et ça, il le fait pas. Ça, il faiblit, il a une réaction de faiblesse. Il accepte que Hollande rencontre lui-même un sous-fifre de Jean Soule, son officier d'ordonnance, le lieutenant Dufay. Et il va finir par suggérer la solution du désarmement sur place au lieutenant Dufay. Donc, je fais observer que la solution du désarmement sur place, elle était urgente. Il aurait fallu en décider très vite, puisque on ne pouvait pas faire confiance. Là, dans une négociation comme ça, il aurait fallu que des inspecteurs britanniques montent sur les bateaux français pour vérifier ce désarmement sur place. Or, s'il y avait quelque chose d'impératif dans les ordres, c'était d'en finir avant la nuit. On voulait interdire à Jean Soule de gagner du temps et de gagner la nuit. Donc là, les ordres étaient très clairs. Et c'est pourquoi, donc, dans l'après-midi, finalement, Jean Soule, qui était là pour gagner du temps, il accepte de recevoir Hollande à 4 heures de l'après-midi. Hein? Donc, petit à petit, quand il voit que Somerville n'a plus d'autre solution que de tirer, il lâche un peu de lest. Alors, il accepte enfin de recevoir Hollande. Mais quand Hollande arrive sur le navire amiral le Dunkerque à 16 heures, vers 16 heures, il n'est plus question du désarmement sur place. C'est terminé. On ne peut plus commencer à entreprendre ces sabotages lourds et les inspecter avant la nuit. Donc, à ce moment-là, comme Jean Soule est toujours hostile à toutes les autres solutions, dans le temps qu'il a gagné, il en a profité pour faire chauffer les chaudières et mettre les bateaux en état de tirer, en état de combat, Donc, finalement, il n'y a plus d'autre solution.
Mais le drame aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que Jansou n'arrive pas à joindre Darlan.
Oui, mais je dirais que ce n'est pas très important. C'est pas très
sûr.
C'est parce que Jansou, pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il refuse de recevoir un messager? Vous vous rendez compte? Vous êtes fonctionnaire français, loin de la France, et il y a un étranger qui vient vous dire des trucs très importants pour votre pays. Vous refusez de le recevoir? Donc, ça veut dire qu'il considérait, Jansou, que les ordres précédents de Darlan tendaient à faire qu'il refuse de recevoir Hollande.
Mais moi, je ne suis pas totalement convaincu. Vous me permettrez de penser qu'un amiral 4 étoiles, autant que je me souvienne, refuse de recevoir un capitaine de vaisseau pour négocier, ça me paraît assez normal. Il y aurait eu un contre-amiral britannique venir, je pense que les choses auraient été différentes.
Bon, ben vous admettez le prétexte de Jansou, mais je pense que c'est vraiment qu'un prétexte. Et moi, j'ai étudié dans mon livre la série des télégrammes de Darlan depuis l'armistice, qui n'avait jamais été fait. Et il est dit noir sur blanc, si vous avez des visiteurs anglais, soyez très cassants avec eux. C'est dit noir sur blanc dans les télégrammes de Darlan.
Pertusio.
Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que si les Anglais avaient été de bonne foi, ce qui n'est pas le cas, pour quelle raison, ce même jour, se serait-il emparé de vive force, avec mort d'homme, des navires de guerre français qui se trouvaient dans les ports anglais, et notamment le sous-marin Surcouf? Alors ça, c'est quand même une grosse question. Et là, et la deuxième question, que, en tout état de cause, de quel droit le gouvernement britannique pouvait ordonner ou demander à la flotte française, c'est-à-dire celle d'un État souverain, c'est-à-dire, de faire telle ou telle chose selon ses propres desiderata. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Non. Et il est certain qu'il y avait d'autres arrière-pensées. Et lorsque vous lisez, par exemple, une réunion du cabinet de guerre britannique du 30 novembre, où l'amiral Dudley Pound, je crois que c'est lui, disait à propos du Richelieu et du Jean Bart qu'il fallait à tout prix éviter que ces deux navires, une fois réparés, passent le détroit de Gibraltar, car, disait-il, unis à la marine italienne, ils pourraient nous infliger de lourdes pertes. Ce qui montre, si vous voulez, cette espèce d'obsession britannique, et c'est cela qui explique toute leur attitude dans cette matière, et notamment à Mersel Kébir. Il faut détruire cette flotte parce qu'elle pourrait éventuellement être utilisée contre nous, elle pourrait nous occasionner des pertes graves. Et c'est ce que disait l'amiral de Lépendre le 30 novembre au comité de guerre à propos du Richelieu et du Jean Bart.
Je rappelle que vous êtes sur Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et que vous êtes au journal de François-Georges Dreyfus qui reçoit donc François Delplat, historien, le général Maurice Fèvre et André Pertuzio. Voilà.
Bien, je crois que l'on peut continuer, si vous voulez, sur une chose que vous venez de dire, à partir de ce que vous venez de dire, c'est que cela prouve que d'un côté comme de l'autre, il y a une incompréhension totale de ce qui va se passer. Or, l'histoire nous montre que, au fond, les choses ne sont pas aussi simples. Vous me disiez tout à l'heure, ce que vous rappeliez tout à l'heure, la formule de Paul Baudouin aux étudiants de Paris après le 11 novembre, auquel vous aviez organisé, que vous aviez co-organisé, Pertusio, en novembre 40. Les choses sont un peu grises. Les choses sont un peu grises. C'est vrai qu'il y a en fait trois ou quatre tendances à Vichy sur la politique étrangère à mener avec l'Angleterre. Il y a ceux qui veulent un rapprochement avec le Reich. Derrière Laval, ça paraît incontestable. Il y a ceux qui veulent la neutralité, et puis il y a ceux qui veulent un rapprochement avec l'Angleterre, et c'est le cas du cabinet du maréchal. Car l'opération Rougier, c'est une opération du maréchal, surtout ne rien dire à Laval. Il ne faut pas que Laval le sache. Et d'autre part, deuxième élément, eh bien c'est ce que vous allez nous expliquer, Monsieur Delplat, maintenant. C'est ce qui s'est passé en novembre, en décembre 1940. Le 13 décembre 1940, Monsieur Laval est mis à la porte du gouvernement et même arrêté pendant quelques heures. À la suite de cela, le nouveau ministre des Affaires étrangères s'appelle Pierre-Étienne Flandin, qui n'est pas particulièrement germanophile, même s'il a envoyé un télégramme à Hitler. Et en plus, Baudouin, qui avait été relevé de ses fonctions par Laval, revient au pouvoir et redevient conseiller personnel du président maréchal de France, chef de l'État. Or, à ce moment-là, débute une opération assez extraordinaire dont on ne parle pas beaucoup et que vous allez nous rappeler et qui a été rappelée récemment, vous me permettez de... dans la revue Conflits contemporains, Conflits guerre mondiale et conflits contemporains, par le président de l'Institut des conflits contemporains, M. Claude Carlier, un départ secret pour l'Afrique du Nord des internés de Pellevoisin. Alors, que s'est-il passé en décembre 1940 ?
Alors, ce dont vous parlez, c'est presque une première. Et ce sont des informations qui nous arrivent par Robert Courrier, qui est un homme de 85 ans aujourd'hui. Enfin, un peu moins, il avait 14 ans en 40, hein, donc on fait le calcul. Et, c'est le fils de Charles Courrier, commissaire de police, que Pétain avait chargé de garder un certain nombre de prisonniers politiques, Mandel, Daladier, Reynaud et quelques autres, qui devaient être jugés au procès de Rion. Et ces personnes vont rester sous la garde de Robert Courrier jusqu'à l'automne 41, où une partie d'entre elles vont être transférées au fort du Portalet. Donc, ce jeune garçon de 14 ans était extrêmement intéressé par la situation. Il s'était fait bien voir de tout le monde. Il était devenu un peu la mascotte des ministres. Il a des souvenirs formidables sur cette période. Et puis, quand il a pris sa retraite, également, à une époque où ça pouvait se faire à 60 ans, c'était avant le déluge, eh bien, il est devenu historien de cette affaire. Il s'est plongé dans les archives, dans les livres. Il a voulu comprendre ce qui s'était passé. Et il en a tiré un mémoire de 200 pages que j'ai moi-même le premier exploité et qui vient donc de l'être maintenant dans ce numéro de Guerre mondiale et conflits contemporains. Et là, il nous raconte tout simplement que dans le cadre de la crise du 13 décembre 40, eh bien, l'établissement pénitentiaire qui se trouvait être dans un hôtel de Pellevoisin dans la région de la Loire, tout près de la ligne de démarcation, cet établissement reçoit brusquement l'ordre de déménager avec un délai de préparation de quelques heures. Dans les derniers jours de l'année, dans les dernières heures de l'année 1940, on est le 31 décembre, et ce qui est donc là, ça avait été déjà dit, ça plus ou moins, en disant oui, bah, c'était trop près, on craignait que les Allemands se vengent du 13 décembre en venant prendre ces prisonniers, on les éloigne. Et finalement, tout le monde sait qu'ils se sont retrouvés à Vals-les-Bains, dans l'Ardèche, où ils vont passer presque un an. Or, ce que raconte Robert Courrier, qui est alors totalement neuf et inédit, c'est que la destination, c'était Alger. Et qu'on était dans le cadre d'un transfert du gouvernement de Vichy à Alger, tout simplement. Donc, les tractations avec Abetz, avec Hitler, avec Darlan, etc., étaient en train de déboucher sur un clash complet entre Berlin et Vichy. Et le pur et simple déménagement en Afrique du Nord du gouvernement Pétain. Et là, y a une conversation téléphonique entre le commissaire Charles Courrier et son ministre de l'Intérieur, Pérouton, qui est le grand homme de cette affaire, le grand maître de l'opération du 13 décembre, c'est Pérouton. Et Pérouton dit « Je me méfie abominablement des Allemands, mais aussi de mon entourage à Vichy. Il faut que votre voyage soit ultra secret. » Alors, on prend une règle, on dit « Bon, on ne peut pas aller à Marseille. » Donc, on devait aller à Marseille pour s'embarquer pour Alger. Avec une règle, sur la carte, Robert Courrier décide, au téléphone avec Pérouton, on fera une étape à Aubenas. Voilà, comme ça, à mi-chemin. Et bon, d'accord, rappelez-moi quand vous serez à Aubenas. Et quand ils arrivent à Aubenas le lendemain soir, et le commissaire téléphone à Vichy, et là, Perrouton lui dit « on arrête tout ». Donc, il y a eu une nouvelle révolution de palais à Vichy, le balancier est reparti dans l'autre sens, et... Donc, ça n'est pas connu, mais en même temps, on peut aussi reprocher aux historiens d'avoir été extrêmement peu intéressés par cette affaire, par les révélations de Charles Courrier, mais déjà, il y avait des traces. Il y avait des traces, par exemple, l'écrivain Roger Stéphane, résistant, qui a joué un certain rôle, qui a écrit un journal et des mémoires, était présent à Pellevoisin le 31, et il en parle. Le président Vincent Auriol faisait partie des prisonniers, et il en parle dans un livre de mémoire dès 1945. Il écrit un livre de mémoire où il raconte cette histoire et où il dit que la destination était Alger. Et ça n'a intéressé aucun historien. Parce que je dirais pas que ça fait une histoire grise, mais ça fait une histoire plus en couleur que ça va plus loin,
si vous me permettez, si je reprends moi l'article de Conflit contemporain, l'article de Carlier. Ce qui me paraît important, c'est un, les idées de départ, deux, la lettre de Churchill qui explique d'ailleurs qu'on risque une invasion de l'Espagne, qui lui fait très peur, et trois, la réaction des États-Unis, qui font savoir qu'il ne faut surtout pas s'engager, d'après l'article que j'ai lu, moi je ne connaissais pas le dossier, je le dis très honnêtement. Et par conséquent, il y a une réaction des États-Unis, n'intervenez, ne bougez pas, l'Angleterre n'est pas prête à vous aider. Et qui, par conséquent, a freiné les désirs du maréchal et de l'équipe du gouvernement de partir.
Oui, là, c'est la partie la plus faible du mémoire de Robert Courrier. Et apparemment, d'après ce que vous dites, je n'ai pas encore lu Carlier, vous venez de m'apprendre que ça existait, mais si c'est ça, Carlier suit de trop près Robert Courrier. Là, il ne prend pas la distance de l'historien. Parce que la manière dont Robert Courrier mêle les États-Unis et le président Roosevelt à cette affaire est tout à fait artificielle. À mon avis, il n'y a pas la liaison.
Ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins artificiel que vous ne croyez, car en fin de compte, un, les États-Unis attendent d'entrer en guerre, ils ne sont pas prêts. Deux, la population américaine n'est pas tellement favorable à l'entrée en guerre, il ne faut pas l'oublier. Trois, il y a une deuxième question, c'est que l'aide anglaise est nécessaire. Si la France s'en va, il est évident que Hitler va appliquer le plan qu'il a déjà préparé pour occuper toute la France, et que l'armée française n'existera qu'en Afrique du Nord, et que par conséquent, il faut un appui anglais, et la réponse de Wilson, de Roosevelt, par l'intermédiaire de l'amiral Lié, et ne faites rien. Et en fin de compte, cela pose toute une série de questions. Premièrement, le gouvernement français montre bien qu'il n'est pas prêt à la collaboration totale. S'il repose complètement le sens de la collaboration de l'accord de Montoire, enfin de l'entretien de Montoire, qui dans deux a en fin de compte un double sens, et à la position Laval, puis à la position du maréchal qui est totalement différente. Lui, il va à Montoire pour négocier un aménagement, un assouplissement des conditions d'armistice. Il ne faut pas l'oublier. En particulier sur la ligne de démarcation et sur la tribu de guerre que la France paye malheureusement tous les jours à l'Allemagne. Deuxième élément, et qui n'est pas négligeable, qui montre qu'au fond, Vichy n'est pas aussi... que la révolution nationale et Vichy, ce n'est pas exactement ce qu'on veut bien en dire à plusieurs reprises, et que les choses vont s'aggraver. Et alors, on peut dire, mais pourquoi le maréchal n'est pas parti en novembre 42, car c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on ne peut pas se demander s'il n'est pas parti pour essayer d'éviter la polonisation de la France? Non pas la polonisation de la France, ça me paraît idiot. Mais la situation des Pays-Bas, la néerlandisation de la France, qui est tout à fait différent. Car il ne faut pas oublier que là où il y a 0,4% de Français qui vont être victimes de l'occupation allemande, on est à 2,5% du côté des Pays-Bas. Or, les Pays-Bas, si vous voulez, il y a trois cas. Il y a le cas français avec le gouvernement du maréchal, le gouvernement de Vichy, on peut en penser beaucoup de choses. J'ai souvent dit ici même que si le maréchal était parti en novembre 1942, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je le dis très clairement. Deux, La deuxième chose que l'on peut se demander, si ce n'est pas pour protéger les Français que le Marshall n'est pas parti. Et à mon avis, je l'ai écrit, je peux le redire, il a peut-être servi les Français, il n'a certainement pas servi la France, il fallait qu'il parte pour servir la France. Quitte à ce qu'il y ait plus de victimes françaises. Alors là, c'est la position que l'on peut avoir, c'est une position très personnelle, pour des tas de raisons, mais je pense effectivement qu'en ne voulant pas partir, le Marshall a contribué à sauver beaucoup de gens parce qu'il y a une administration d'État qui subsiste. Voilà, je crois que nous allons terminer l'émission de cette manière. Je voudrais vous remercier tous les trois d'être venus avec et nous apporter chacun des choses tout à fait intéressantes, tout à fait nouvelles. Ce qui m'amène à répondre à un monsieur qui dit qu'il est furieux car on n'a pas pris tous les messages, ce qui est vrai. Mais si on avait pris tous les messages, on n'aurait fait que cela et on n'aurait pas pu faire une émission qui pose quand même tout le problème de la négociation, de la politique Halifax-Churchill, la politique de Marcel Guébir, et en fin de compte, l'affaire de novembre, de décembre 40 en France. Je crois que nous avons abordé des choses tout à fait intéressantes, tout à fait nouvelles d'ailleurs, et je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu y collaborer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.